Demain, 2 novembre, l'Église nous fera prier pour ceux qui attendent encore aujourd'hui d'entrer dans la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, elle nous fait prier non pas pour, mais avec ceux qui sont déjà dans la gloire de Dieu. Et voilà un premier motif de joie en cette fête de la Toussaint. D'affirmer dans notre foi que des personnes que nous avons connues, avec qui nous avons vécu, que nous avons vues vivre, que nous avons aimées, qui nous ont aimées, sont aujourd'hui déjà dans cette gloire rayonnante de Dieu. Et d'une certaine façon, leur joie déborde jusque sur nous, sur la terre. Peut-être jamais comme aujourd'hui, nous pouvons saisir ce que signifie la communion des saints. Dans le sein d'Abraham, il n'y a pas de différence essentielle entre ceux qui sont déjà arrivés au but et ceux qui, comme nous, sont encore en chemin. Dans le grand cœur de Dieu, nous ne formons qu'un seul corps. Alors, il ne faut pas s'étonner que l'Église, dans sa liturgie, nous propose aujourd'hui les béatitudes. Les béatitudes qui sont comme une incessante reprise d'un seul mot qui résume tout : heureux. Heureux parce que c'est la vocation profonde de chaque homme, de chaque femme, devenir heureux. Et au fond, ceux qui nous ont précédés dans cette gloire nous apportent une deuxième joie, si je puis dire, celle de nous démontrer en quelque sorte que c'est vrai. La sainteté est quelque chose qui existe et qu'elle conduit au bonheur éternel. Ils en sont comme la démonstration. Même s'il ne nous revient pas à nous de canoniser celui-ci ou celle-là, c'est le secret de Dieu. Une chose est certaine, et c'est l'Apocalypse qui nous le dit, la foule qui remplit le ciel est impossible à dénombrer, tellement elle est immense. Et à chaque instant, elle s'augmente de nouveaux membres. Ce n'est pas une petite affaire de voir attester par l'exemple de ces saints anonymes, mais aimés, connus d'une certaine façon par nous. Ce n'est pas une petite affaire que de voir qu'ils confirment que le chemin de sainteté auquel nous aspirons est un chemin authentique. Mais justement, c'est un chemin, et un chemin, nous le savons bien, le chemin de la vie en particulier, c'est un chemin parsemé d'obstacles, de difficultés, de chutes, de relèvements, de rechutes et de nouveaux relèvements, jusqu'à l'extrémité. Car enfin, dans le plan de Dieu, nous ne devons jamais confondre sainteté avec le fait de ne jamais tomber. Cela n'est pas possible. Un seul n'est jamais tombé, le Christ et sa mère, auquel il a fait participer déjà à cette grâce plénière de sa passion et de sa résurrection. Mais en dehors de cela, et si vous ne me croyez pas, lisez la vie des saints, aucun ne peut se prévaloir de n'être jamais tombé. Car l'essentiel de la sainteté n'est pas de ne jamais tomber, ce qui est impossible, mais de toujours se relever. Et cela, c'est la grâce qui nous le permet. Et cela, c'est l'espérance qui nous est donnée. Dans la deuxième lecture que nous entendions en allemand, la première lettre de Saint Jean, le mot « espérance » est prononcé. Nous le savons, je cite cette lettre, « quand cela sera manifesté, cette plénitude de Dieu en chacun de nous, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est, et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. » La pureté dont il s'agit, ce n'est pas de celle illusoire, de celui qui ne tomberait jamais. La pureté dont il s'agit, c'est l'espérance. Et qu'est-ce que l'espérance ? Sinon, cette conviction profonde que Dieu alimente dans notre cœur, que jamais il n'abandonne les siens. Et que même au plus fort de la tentation, au plus fort de la chute, peut-être la plus pitoyable, il nous tend encore et toujours une main secourable. Cela est très bien illustré dans l'icône pascale, où nous voyons le Christ sortir vigoureusement du tombeau et tendre une main de chaque côté à Adam et Ève pour les extirper de ce lieu d'attente qu'étaient les enfers. Voilà ce qui se passe à chaque fois que nous sommes tombés. Il est là immédiatement pour nous relever. Voilà notre espérance la plus profonde. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes saints au sens de Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure dans le Gloria « Tu solus sanctus, toi seul es saint ». Mais ce que nous avons à saisir, c'est que cette sainteté, le Christ, veut nous la transmettre. C'est même le cœur de sa vie, de cette vie qu'il nous transmet quotidiennement à travers sa parole vivante qui est esprit et vie, et à travers ses sacrements. Faites de la Toussaint, faites de ceux qui sont déjà parvenus au but, mais aussi, d'une certaine manière, faites de ceux qui, comme nous, sont en chemin, sont sur ce chemin ardu de la sainteté, mais qui savent qu'ils ne sont pas seuls, parce que Dieu fait déjà rayonner son visage saint sur eux. Et en contemplant, c'est ce que nous disait la première lettre de Jean, en contemplant ce visage lumineux, rayonnant du Christ, nous sommes transformés en lui. Chers frères et sœurs, soyons dans la joie, parce que nous aussi, nous sommes appelés à cette gloire que partagent déjà ces saints anonymes. C'est notre destinée. Et ce n'est pas une destinée impossible. Voilà justement ce dont ils témoignent, ceux qui nous précèdent, ceux qui nous entourent de leur affection. Et il n'y a pas de raison que cette affection soit moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'était quand ils vivaient encore parmi nous. Au contraire, elle est décuplée, parce que désormais il n'y a plus aucun obstacle dans cette affection. Eh bien, sachons aujourd'hui nous réjouir de leur joie, et d'une certaine manière, sachons déjà nous réjouir de la propre joie qui est la nôtre. Parce que les béatitudes, et c'est intéressant, parlent au présent, à trois reprises. Dans cet évangile que nous avons entendu, elle ne parle pas au futur, mais au présent. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et votre récompense est grande dans les cieux. Cette récompense, elle est déjà commencée.